les sentiers du bonheur.
Une émission qui vous apporte un message d'espérance, de paix, de joie et de confiance.
Chers amis auditeurs, bonjour. Eric et Sabrina pour emprunter avec vous les sentiers du bonheur. Eric, nous arrivons à la fin de ce mois de mai qui, comme de coutume, a été marqué par de nombreux jours fériés. Le dernier de la liste, c'est le 29 mai, le lundi de Pentecôte, qui est le prolongement de la fête religieuse du dimanche de Pentecôte. Historiquement, toute la semaine qui suivait cette fête était entièrement fériée en France. Cependant, à la fin du XIXe siècle, seul le lundi a été conservé comme jour férié. Mais revenons à la partie religieuse de la Pentecôte. De quoi s'agit-il précisément ?
Dès l'Ancien Testament, la Bible parle de cette fête, la fête de Pentecôte, qui est bien à l'origine une fête juive qu'on célébrait 50 jours après la Pâque, d'où ce nom de Pentecôte. Le mot est d'origine grecque pour parler justement de ces 50 jours. En tout cas, le peuple d'Israël célébrait ce qu'on appelait alors la fête des semaines. On comptait 7 semaines de 7 jours après Pâques. 7 fois 7, cela fait 49 jours. Et le lendemain du 49e jour marquait la fin de la moisson. La fête était donc liée au cycle agricole. Après le labeur dans les champs, le peuple prenait un temps de réjouissance pour remercier Dieu d'avoir pourvu pour la récolte, une récolte qui assurait la survie de la communauté pour toute l'année.
La tradition juive fait aussi un lien entre cette fête et le don des 10 commandements que Dieu transmet à Moïse sur le mont Sinaï.
C'est juste, mais ce lien relève, comme tu le dis, de la tradition, parce qu'il n'y a pas de passage biblique qui en parle clairement, même si cet accent sur la loi a clairement pris le dessus sur la dimension agricole de la Pentecôte chez les Juifs, et ce même au temps de Jésus. Maintenant, avec les chrétiens, la fête a marqué un vrai tournant du plan de Dieu pour le salut des hommes. La Pentecôte est alors associée au don du Saint-Esprit et c'est cet aspect qui nous concerne encore aujourd'hui.
On retrouve le récit de ce tournant dans le deuxième chapitre du livre des Actes des Apôtres.
Effectivement, le chapitre rapporte ce qui s'est passé à l'occasion de la Pentecôte au printemps de l'an 31, 50 jours après la résurrection du Christ, tandis que les disciples étaient réunis. Un violent coup de vent remplit toute la maison où ils étaient. La Bible dit qu'ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu se posant une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils se mirent à parler des langues étrangères qu'ils n'avaient jusque-là jamais apprises. Ce miracle pour parler des langues étrangères s'explique par le fait que ce même jour à Jérusalem, il y avait une population multinationale en pèlerinage dans la ville.
Il s'agissait de pèlerins de la diaspora juive.
La Bible mentionne des Crétois, des Arabes, des Romains, des Égyptiens et bien d'autres nationalités encore. Toutes ces personnes ont pu entendre ce jour la bonne nouvelle du Sauveur Jésus et ce dans leur langue maternelle, ce qui de toute évidence était primordial pour Dieu. Alors le Saint-Esprit promis par Jésus a donc été à l'œuvre, tel un chef de mission pour équiper et qualifier les apôtres afin qu'ils saisissent cette opportunité.
Les pèlerins sont rentrés chez eux ensuite avec le message qui allait bientôt bouleverser le monde.
C'était là donc l'opportunité à saisir et le don des langues a permis de le faire en renversant justement cette barrière de la langue. Maintenant, ce qu'il faut retenir de ce tournant, c'est qu'à partir de ce moment, Dieu s'offrait encore à l'humanité par son esprit pour guider chacun dans l'expérience du salut. Jésus a ainsi expliqué la mission du Saint-Esprit dans l'évangile de Jean. Au chapitre 14, il a pu dire « Celui qui doit vous venir en aide, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Il a ajouté encore au chapitre 17 que l'Esprit Saint convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement de Dieu.
C'est un véritable enseignant que Jésus nous a laissé.
Un enseignant de vie éternelle, enseignant de valeurs divines, c'est le maître d'apprentissage à la vie de Dieu. Ainsi, celui ou celle qui recherche la proximité avec Dieu peut, grâce au Saint-Esprit, être éduqué et guidé pour cela. Et l'une des premières étapes dans ce parcours, l'un des premiers modules, on peut dire ainsi, c'est la prise de conscience de nos péchés que l'Esprit donc nous permet d'avoir.
Si je fais quelque chose de mal et que j'entends, comme on dit, la petite voix qui m'interpelle, est-ce la voix de l'Esprit ?
Dieu nous parle, cela ne fait aucun doute. Et on peut dire qu'il le fait à travers cette interface qu'on appelle la conscience. Cette conscience a besoin d'être éclairée et Dieu précisément nous éclaire par le Saint-Esprit et par les Écritures également. La Bible nous aide à reconnaître comment l'Esprit a déjà parlé, comment il a déjà agi par le passé. Ceci nous donne de précieuses indications pour son action aujourd'hui. Dans les Écritures, on retrouve la ligne directrice de l'action du Saint-Esprit, une ligne qui reste la même, la fidélité à Dieu, à sa vie, à ses valeurs. Donc oui, quand l'Esprit nous interpelle sur le mal que nous avons fait, si nous nous laissons convaincre, il nous conduit vers le seul et unique moyen pour être pardonné et libéré du péché. Il dirige nos regards vers Jésus, celui qui enlève de nos cœurs, et par son pardon, le sentiment de culpabilité qui nous ronge. Ce type d'expérience nous conduit à revoir en profondeur nos priorités, nos choix et plus globalement notre façon d'envisager la vie.
Cette nouvelle façon de voir, là encore, c'est le travail de l'Esprit Saint.
Oui, parce qu'il poursuit avec nous la formation à la vie du ciel. Il conduit à faire alliance avec Jésus pour précisément avancer dans les différents modules de cette formation. Et cela va inévitablement produire un changement positif dans nos vies. Paul appelle cela « vivre selon l'Esprit », »,« vivre le fruit de l'Esprit » qui se manifeste en termes d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité. Il parle aussi de douceur et de maîtrise de soi.
Et c'est bien ce dont nos familles et nos sociétés ont besoin pour aller mieux, n'est-ce pas ?
Si chacun individuellement acceptait de s'inscrire à l'école du Saint-Esprit, certainement que nos familles et nos sociétés iraient bien mieux. Le Saint-Esprit, c'est le partenaire de vie idéal. Un partenaire à qui on peut faire entièrement confiance. Le défi consiste maintenant pour nous à nous laisser interpeller, à nous engager sérieusement dans la formation qu'il propose et à obéir aux indications de ce partenaire divin.
Amis auditeurs, sur les sentiers du bonheur, il y a une école de formation toute spéciale et dont l'enseignant principal est le Saint-Esprit. Il forme à la vie éternelle avec Dieu, nous donnant ainsi l'opportunité d'y avoir accès dès aujourd'hui. À quel module de la formation êtes-vous ? En tout cas, peu importe le module auquel nous sommes, l'important est de rester à l'école, de suivre les instructions du maître et pratiquer l'enseignement reçu pour en apprécier la valeur. À bientôt.
C'était votre émission hebdomadaire, Les Sentiers du Bonheur. Un programme présenté par l'Église Adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui ? Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement.
Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même.
Voici notre adresse.
Boîte postale 50 97 282 Le Lamentin, CEDEX 2.
Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.